toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes bien le quatrième vendredi du mois et c'est donc la Fondation Copernic qui investit l'émission Mode d'emploi. Avec aujourd'hui, pour présenter l'émission, Laurent et Corentin, Claude aux manettes. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre quels sont les rôles de l'agriculture et les changements qu'elle est en train de vivre, en particulier dans notre pays. L'agriculture fait face à de nombreuses évolutions de par son rôle si important. On peut voir les modes de consommation qui évoluent, le changement climatique, l'évolution des réglementations, la mondialisation pour ne citer que. Et comme elle permet entre autres d'approvisionner nos frigos et de nous nourrir, pour citer le budget moyen, 300 euros par mois en moyenne du coup, et si on ne cite que ça, il y a aussi la partie exportation. La France est le troisième plus gros exportateur agroalimentaire. Autant dire que les industriels et autres grands groupes ne dédaignent pas ce secteur et y mettent leur pression. Il y a de l'argent en jeu et ils sont pas prêts à le laisser passer, usant de tout leur pouvoir pour augmenter les bénéfices. Et on connaît les impacts que peut avoir ce mode de fonctionnement de l'agro-industrie, les impacts environnementaux, les pesticides, les nitrates, la perte de biodiversité, y compris donc les races et les cheptels ou les cultures. La diversité des aliments qui s'appauvrit dans nos super magasins. Et puis il y a aussi l'enjeu de la qualité. L'agro-industrie est un produit des aliments qui sont pas forcément très bons pour la santé. Et en même temps, depuis quelques années, on semble assister au retour d'une volonté de qualité de la part des consommateurs, avec la volonté de rentrer dans le bio, la viande sans antibiotiques, sans OGM, le local et ainsi de suite. Naturellement, l'agriculture et la vie de ces acteurs en est fortement impactée. On voit les petites fermes qualitatives qui tendent à laisser leur place aux gros producteurs, souvent intensifs. De 1970 à 2010, les exploitations agricoles, d'ailleurs, ont subi une grosse crise et une grosse régression, passant de 1,6 million à environ 500 000 en France. On discutera plus tard de l'impact que ça peut avoir dans nos assiettes et dans nos campagnes. Et aussi, de 1963 à 2010, le nombre d'agriculteurs a diminué de près de 3 millions, créant et potentiellement un mal-être grandissant chez les détenteurs de petites surfaces, alors que certains gros exploitants prospèrent. Qui sont les agriculteurs? Comment produisent-ils et quelles sont leurs contraintes? Les petits agriculteurs sont-ils en danger? Le modèle des grosses superficies intensives est-il en train de devenir la norme? Y a-t-il une place pour l'agriculture paysanne? Cette agriculture paysanne peut-elle d'ailleurs vraiment nourrir le monde? Et se soucie-t-on d'ailleurs de la qualité de ce qu'il y a dans nos assiettes, ou s'agit-il de produire à bas coût des marchandises rentables? Autour de cette table, nous avons pour en discuter Françoise Follet-Signor, maraîchère en PACA et vice-présidente de la FNCIVAM. Je laisserai expliquer quel est cet acronyme plus tard. Et Michel Roux, secrétaire national de la CONF et trésorière de la FADAR, que nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone. Dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver cette émission comme les précédentes sur le site de la Fondation Copernic, mais également en rediffusion sur la radio Fréquence Paris Pluriel que vous écoutez actuellement, mercredi prochain à votre petit réveil à 7h.
Cette première partie d'émission, on va parler un peu de l'état des lieux des filières agricoles. Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'on a beaucoup parlé de la crise agricole et notamment de la filière porcine avant l'été. J'imagine que tout le monde s'en souvient. Le gouvernement a annoncé un plan d'urgence. Donc voilà, moi ma question pour commencer, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui une situation économique homogène parmi les filières agricoles? Est-ce que tout le monde est finalement concerné par cette crise, ou on est sur quelque chose d'hétérogène en fonction de la taille de l'exploitation, en fonction de son orientation?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Je pourrais répondre à cette question en disant que ce qui caractérise l'agriculture française, c'est bien la diversité. La diversité des productions, la diversité des situations, mais aussi la diversité des territoires. Donc quand on parle d'une crise du porc, qui a effectivement eu lieu, c'est une crise d'une filière dont les acteurs sont dans un système qui a peu de liens avec le territoire et disons presque hors sol à la fois du point de vue technique mais aussi du point de vue du lien au territoire. Nous sommes là dans un système mondialisé avec des cours qui sont plus bas que les coûts de production, des organisations à grande échelle. Et effectivement, quand il y a des aléas, type un embargo comme en Russie ou une baisse du cours, eh bien, c'est une crise, une grave crise.
D'accord. Michel Roux, donc juste pour situer Françoise Follet-Sinoir, vous venez d'intervenir, vous êtes maraîchère. Et Michel Roux, est-ce que c'est vous qui êtes aussi vous êtes dans l'élevage?
Oui, moi je suis éleveuse, oui.
Est-ce que c'est un constat que vous partagez?
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Françoise. Cependant, si vous avez commencé en parlant du porc, effectivement, le porc est dans une situation, mais qui date depuis longtemps, et dans une situation de crise structurelle, c'est-à-dire c'est presque tout le temps, on parle de cycles de 3 ans, c'est-à-dire sans cesse, le porc, il y a de la surproduction, puis ensuite ça baisse, et ensuite ça commence, et donc régulièrement, les producteurs de porc sont en surproduction. Le problème, c'est que la production de porc n'est pas régulée. On le verra pour les autres productions, il n'y a pas de régulation prévue.
D'accord.
On s'est laissé libre cours au marché. Effectivement, il y a une différence entre les producteurs, parce que certains producteurs, comment on pourrait dire, prennent en compte les différentes crises et ensuite changent de système. Et la crise, elle est surtout dans des systèmes, c'est pas forcément la taille, mais dans des systèmes plutôt industriels.
D'accord.
C'est-à-dire des systèmes dans lesquels on produit beaucoup, en essayant de s'en sortir, en produisant de plus en plus, mais la surproduction entraîne la crise. Donc c'est un système cercle vicieux qui ne s'arrête pas, quoi.
D'accord. Donc on est un peu face à deux types d'agriculture. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a d'un côté une agriculture qui serait plus tournée vers le territoire, peut-être une agriculture paysanne, et une agriculture de l'autre côté qui est intensive ou industrielle du moins, c'est ça?
Mmh. Oui, une agriculture dans laquelle on dit qu'on produit du minerai pour l'industrie. C'est-à-dire on n'est plus du tout paysan, attaché au territoire, comme vous le dites, mais à la terre et au local et avec des clients autour, pas forcément en vente directe, mais des gens qui sont pas trop loin et qui achètent notre produit. Ce qui se produit quand même, parce qu'en fait, la plupart de ce que les producteurs français produisent, les éleveurs, c'est mangé beaucoup en France. Mais il y en a beaucoup qui doit être exporté, donc c'est industrialisé, donc c'est transporté, etc. Donc c'est déconnecté.
D'accord. Et du coup, ce dont on parle, c'est des petits producteurs et des grosses productions, par exemple de blé, on pourrait imaginer dans la Beauce, qui elles prospèrent, alors que les petits agriculteurs sur des plus petites superficies ont plus de problèmes. C'est ça l'enjeu à l'heure actuelle?
C'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, on dit les fermes. Moi, j'ai lu des textes à propos de la crise. C'est bien cette crise. Elle est saine. Elle va éliminer les canards boiteux. J'ai lu ça dans certains écrits liés à la FNSEA, par exemple. Et là, moi, ça m'a fait hurler, parce qu'en plus, c'est pas vrai. C'est pas des canards boiteux, c'est des gens qui, au contraire, se sont beaucoup modernisés, ont fait beaucoup d'efforts, comme on leur a dit qu'il fallait faire. Mmh. Et c'est ceux-là qui souffrent le plus. Et alors, ça veut pas dire que les petits ne souffrent pas, hein, parce que quand il y a une crise, finalement, ça attrape tout le monde. Hein. Mais souvent, c'est ceux qui ont le plus investi, c'est ceux qui ont une marge très petite, qui sont le moins autonomes, qui souffrent le plus.
D'accord, donc c'est pas une différence forcément de taille, mais plus de mode de faire et de finalement un peu d'endettement.
Voilà, c'est pas la taille seulement. C'est vrai que quand on est industriel, on va avoir tendance à s'agrandir progressivement. Mais c'est pas seulement la taille qui compte. Il y a plein d'autres choses. C'est les capitaux, c'est l'autonomie, c'est tout ça.
D'accord. Françoise Follet-Sinoir.
Oui, tout à fait. Et c'est cette complexité-là d'analyse qu'il faut vraiment toujours avoir en tête. Quand on parlait tout à l'heure de prospérité des céréaliers, les céréaliers ont connu des crises aussi. Et effectivement, leurs marges, même s'ils ont un chiffre d'affaires amplifié par des aides conséquentes, souvent le revenu et la marge est faible, quoi. Donc, je crois qu'il faut vraiment s'attacher dans chaque moment de l'analyse à essayer de comprendre à la fois les aspects économiques, sociaux, mondialisés et aussi le lien qu'il y a entre les habitudes de consommation, les événements du monde. Donc c'est vrai que l'agriculture nous mène parfois très très loin.
Voilà. Pour étayer et peut-être essayer de comprendre quelle est l'organisation et la direction que prend l'agriculture, je vous propose d'écouter un extrait sur lequel vous pourrez réagir de Monsieur Belin, qui représente la FNSEA.
Il faut savoir deux choses. D'abord, un, le marqueur de l'agriculture française, c'est justement d'être très diverse. Et il faut pouvoir servir plusieurs marchés. Est-ce que nous ne mettons de côté 50 millions de consommateurs qui consomment tous les jours, sauf peut-être quelques exceptions, une alimentation provenant d'une agriculture dite conventionnelle, qui doit être à la fois de qualité sur le plan sanitaire, qui doit être aussi gustative, mais qui doit être d'abord une alimentation au plus bas coût.
Voilà, donc du coup la question de est-ce qu'on produit pour le bas coût en priorité, parce qu'il le met en dernier, mais en final dans son énoncé il veut dire que l'objectif c'est le bas coût et du coup la productivité.
Alors je pense que nous serons toutes les deux d'accord pour dire que il est impensable d'accepter une agriculture à deux vitesses, une bipolarisation. Enfin, l'agriculture est l'agriculture. Enfin, elle doit nourrir tout le monde et à un prix juste. Donc il faut parler de prix juste, c'est-à-dire un revenu pour le paysan, pour un éventuel intermédiaire, et une possibilité d'accès à l'alimentation pour tous. Alors bien sûr, c'est peut-être un peu utopiste dit comme ça, mais en fait, on voit bien que quand il y a des agricultures à deux vitesses, certains pays l'ont choisi, comme le Brésil, on est dans des incohérences, et les problèmes environnementaux, évidemment, sont énormes, mais aussi... des problèmes sociaux.
Est-ce que vous partagez, Michel ?
Oui, je partage. Je pense que quand on dit... Belin, là, excusez-moi, Monsieur Belin, il ment, parce qu'il dit que c'était produit de qualité, ce qui n'est pas le cas. On le voit... je n'attaque pas le conventionnel par rapport au bio, etc. Ça, c'est pas mon... Mais simplement, quelquefois, il y a des produits qui sont extrêmement dangereux, je sais plus comment ça s'appelle, l'Agence française de sécurité alimentaire, ou l'Agence européenne, les deux, au début voulaient interdire, puis finissent par accepter sous la pression des lobbies. La FNSEA était un lobby très puissant. Ils acceptent des produits dans le conventionnel qui sont extrêmement dangereux.
D'accord. Dangereux pour le consommateur ou pour le producteur,
pour les deux. Et le consommateur, ouais. Les deux. On le sait, hein, des maladies. Donc aujourd'hui, on le sait, il y a des maladies graves. Et ça va finir par se savoir. C'est pire que ce qui s'est passé avec l'amiante, parce que en fait, c'est pire, c'est pareil. Il y a le silence, etc. Donc dire que cette qualité, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. On peut pas produire à bas coût avec des produits de qualité. C'est impossible. Parce qu'on met des produits qui empêchent de pourrir au dernier moment, qui permettent que les fruits sont très rouges, très beaux, très ronds. Enfin, Enfin voilà, on produit de toute façon, je vous dis, on peut être conventionnel et produire des produits de qualité. Hein. Je ne parle pas bio-conventionnel, je n'oppose pas. Parce qu'il y a des conventionnels qui font très attention, qui n'utilisent pas ces produits dangereux parce qu'ils savent qu'ils sont dangereux d'abord pour eux et aussi pour le consommateur. Et d'autre part, quand on parle à bas coût, il y a deux choses. La variable d'ajustement, c'est le revenu du paysan. Le bas coût, c'est le bas revenu pour le paysan. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Donc ça, c'est pas possible. Alors on dit qu'on va donner à la place, c'est ce qui avait été prévu au début de la politique agricole commune, on donne des primes pour compenser. Sauf qu'après, on dit qu'on est dans un marché avec libre concurrence non faussée, et donc on donne des primes à certains et pas à d'autres. Donc on est plus du tout, on est à bas coût. Et certains, ils sont compensés, ils ont des primes, même plus de primes que pour leur revenu. C'est plus que leur revenu. Et d'autres sont à bas coût, bas revenu, et n'ont pas de primes. D'autre part, c'est à bas coût pour qui ? Pour le consommateur, certes, mais c'est pas à bas coût pour la société, parce que quand il y a des malades, ben qui paye ? La société. Quand il y a l'environnement qui est vraiment dégradé, qui paye ? La société. Donc ce n'est pas à bas coût.
C'est les externalités qui ne sont pas prises en compte dans le prix final.
Les coûts cachés, j'appelle ça les coûts cachés, mais on ne les prend pas en compte, et il y a quelqu'un qui les paye.
Et Françoise, du coup, c'est dans le maraîchage, est-ce que donc on voit ce qu'il faudrait faire, effectivement, c'est du produit de meilleure qualité de façon générale. Est-ce que malgré tout la direction que donne Belin est suivie, ou il y a une résistance par rapport à ça quelle est la réalité à l'heure actuelle sur l'agriculture française? Est-ce que l'intensif de mauvaise qualité se généralise, ou il y a d'autres quelles sont les proportions?
Alors les fruits et légumes par exemple sont un bon exemple pour illustrer ce propos du bas coût. Effectivement, donc moi je suis maraîchère avec mon mari, en transmission à notre fille, sur une ferme, en agriculture biologique, un maraîchage diversifié, une relativement petite ferme. Nous avons peu de subventions. On essaye, nous sommes en AMAP, et on essaye dans les AMAP de réfléchir à la juste valeur, au juste coût. Depuis de longues années, il y a une éducation à faire auprès des mangeurs, des habitants de territoire, pour que ils comprennent que ce bas coût dont ils sont friands, il a des conséquences à la fois pour la vie des paysans, pour leur sol, leur santé, etc. Alors, il faut bien préciser aussi que la part de l'alimentation dans un budget a énormément baissé en France. Et en fait, le prix, on n'accepte plus de payer un prix à ce qu'on mange. On veut que la part de l'alimentation soit très très petite dans notre budget.
Et c'est vrai que ça va en parallèle, donc cette culture un peu du bas coût depuis plusieurs dizaines d'années de payer ses produits alimentaires de moins en moins cher, avec finalement beaucoup d'endettement de la part des exploitants, puisqu'on leur demande via des contrats de production d'avoir un niveau de production et de s'endetter en achetant des intrants, du matériel. Est-ce que ça, c'est des choses que vous observez aussi?
Alors, il faut savoir que l'agriculture, c'est un métier où, par unité de travail, il y a un énorme investissement. De toute façon, même si on n'en fait pas énormément sur sa ferme, c'est déjà un métier où il y a beaucoup d'investissements par unité de travail. Et donc, on demande effectivement aux paysans, finalement, de se moderniser, de s'adapter, d'être compétitif, c'est le grand mot, avec un taux d'investissement qui est absolument énorme, et qui met une pression à la fois pour obtenir des rendements qui est démesurée. Bon, vous savez qu'il y a un taux de suicide chez les agriculteurs important, qu'il y a une difficulté de transmission. Les investissements sont souvent la cause. Alors, par exemple, en légumes, on voit apparaître effectivement, ces petites fermes finalement subissent peut-être moins la crise, et on voit des paysans en difficulté se mettre à réinvestir sur des serres, sur du hors-sol. On le voit dans notre région en PACA, on voit des énormes serres de plus en plus hautes, de plus en plus technicisées, faire des produits, des fraises hors sol, et on se demande si c'est vraiment pas une folie, dans la mesure où justement on observe aussi dans le même temps une évolution de prise de conscience de la part des personnes qui mangent, en fait, nous tous donc, sur la réelle qualité. Quand je dis réelle, c'est-à-dire c'est pas cette fausse qualité qu'on a bien voulu nous faire manger depuis des décennies sur l'apparence et surtout sur l'apparence.
Michel, du coup, est-ce que de votre ressenti, vous êtes en compétition avec des gros exploitants qui vous mettent une pression et qui limitent le marché, ou les petits exploitants ont encore leur place et arrivent à prospérer et à se développer?
Oui, moi, je pense qu'on est en compétition, mais le jeu est faussé. Hein, c'est comme le lièvre et la tortue, mais bon, le jeu est faussé, c'est-à-dire que tout le monde ne part pas avec le même handicap ou les mêmes avantages. Et donc nous, c'est pour ça qu'on se bat contre par exemple les usines à nourriture, quoi.
La ferme des mille vaches, ou c'est ça.
La ferme des mille vaches, ou l'usine des mille vaches, ou bien les serres. Dès que vous avez, par exemple, je sais pas moi, dès que vous dépassez 10 hectares de serre, de toute façon, déjà, c'est un truc
c'est énorme.
Et donc, nous, on se bat contre ça parce qu'en fait, si on prend l'exemple des mille vaches, si on nous dit que c'est petit à côté de l'Allemagne, à côté des États-Unis, ça, on est des petits avec notre ferme des mille vaches, et on comprend pas pourquoi on se bat contre ça. Mais parce que, déjà, une première chose, c'est que si on a que des fermes comme ça, elles ne seront pas partout. Comme aujourd'hui, il y a des producteurs, des éleveurs de lait, des éleveurs de vaches laitières qui sont dans tous les territoires de la France, dans les montagnes, partout. Là, il n'y en aura que dans les endroits un peu faciles. Vous voyez que rien que la ferme des mille vaches, par exemple, elle a besoin de 3000 hectares pour épandre ce qui va sortir du méthanisme.
La
subvention. Bon. Donc 3000 hectares, vous voyez donc ce que c'est. Donc il faut qu'elle les trouve. Donc qui les trouvera dans les montagnes et tout? Donc il n'y aura plus d'élevage laitier, donc ça va être un désert rural, hein. Des campagnes qui vont se fermer, des bois, etc. Bon, on peut dire c'est bien qu'il y ait de la forêt, mais enfin, bon, si vous habitez dans un village qui a de la forêt tout autour, je ne sais pas si c'est très bien. D'autre part, ils produisent à bas coût. Ça, c'est vrai qu'ils produisent à bas coût, puisque pour la ferme du village, ils se sont vantés de produire à 270 euros la tonne. Ça veut dire 27 euros le litre en coût de revient. Parce qu'ils enlèvent des subventions qui sont à peu près de 27 centimes le litre aussi. Les subventions. Moi, je mélange les subventions d'investissement et des subventions de fonctionnement. Mais bon, ça fait 27 centimes. Donc, vous pouvez très bien vendre à 27 centimes. Si on vous donne 27 centimes de plus, ça fait 54 centimes. Moi, je les ai pas, les 54 centimes. Donc, moi, mon prix de revient, il est de 35 ou 36 centimes le litre. Et voilà. Et moi, je peux pas baisser. Pourtant,
oui, vous pouvez pas vous aligner.
Travail autonomie. Et donc, eux, ils vont me faire disparaître, c'est sûr. Mais ce sera bien dommageable pour moi, certes, mais pas que. Ce sera dommageable pour le territoire dans lequel je suis, pour mes enfants qui reprennent la ferme, pour les produits qui de qualité, etc. Enfin, c'est dommageable pour tout le monde.
Tout à fait. Donc ça questionne un peu les politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre pour défendre le modèle que l'on souhaite. Donc ça, on va le voir dans la deuxième partie de l'émission, juste après une première pause musicale. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous êtes sur l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic en ce quatrième vendredi du mois. Nous venons d'écouter Curtis Harding et Castaway. Donc dans la deuxième partie de l'émission, on va parler des orientations des politiques publiques à destination du monde agricole. Je vais commencer quand même par la minute Copernic, donc dédiée à la Fondation Copernic et à ses actualités. Donc sur le site de la Fondation Copernic, vous pourrez retrouver un article, un point de vue qui est paru dans Le Monde du 15 octobre, signé Thomas Coutreau, porte-parole d'Attaque, et Pierre Calfa, coprésident de la Fondation Copernic, sur le budget 2016, régressif et illusoire, régressif puisqu'il prévoit 16 milliards d'euros de nouvelles coupes budgétaires, notamment concernant la sécurité sociale, les collectivités territoriales et les services de l'État. Illusoire puisqu'il est construit sur une prévision de croissance, 1,5%, qui est plutôt imprudente. Deuxième point, vous pourrez retrouver aussi la description de la nouvelle note de la Fondation Copernic qui est parue fin septembre sur le code du travail, le code du travail en sursis, point d'interrogation, donc avec le rêve du MEDEF sur les salariés totalement flexibles, soumis et sans protection. Donc vous retrouverez une description de cette note. Et troisième point, la mobilisation pour le climat. Ici dans cette émission, on a fait une émission sur la COP21 à la fin de l'année dernière, et on en refera une au début janvier pour faire un peu le bilan de la COP21 qui se tient à Paris. Donc vous retrouverez un peu toutes les dates de mobilisation, notamment le 28-29 novembre, il y a une marche pour le climat à la veille de l'ouverture de la conférence. Donc on vous invite tous à nous rejoindre à Paris et dans d'autres villes de France. Le 5 et 6 décembre, le sommet citoyen pour le climat se tient à Montreuil. Du 7 au 11 décembre, vous pouvez nous retrouver à la zone d'action pour le climat, la ZAC, et le 12 décembre, grosse mobilisation de masse pour la justice climatique. Voilà l'agenda fin novembre, début décembre, avec la grosse mobilisation autour de la COP21.
Du coup, on va entamer cette deuxième partie, comme nous l'avons dit, qui sera tournée autour des politiques agricoles. Et comment aborder les politiques agricoles sans parler de la PAC. Et ma première question, du coup, va porter sur cette impression qu'on a que la PAC des années 50 est encore très présente dans notre quotidien, cette PAC très orientée productiviste. Donc ma question, c'est, est-ce le cas? Est-ce que cette PAC est toujours dans vos quotidiens? Ou au contraire, vous ne vous est-elle pas adressée et vous passe-t-elle à côté? Effectivement, Michel Roux, vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus.
Mmh. Oui, moi je pense que au début, la PAC, quand elle a été construite, c'était une PAC généreuse, qui a d'ailleurs fonctionné très rapidement. Et on dit que quand une politique atteint son but, eh ben, il faut faire une autre politique. C'est-à-dire non pas arrêter ce qui se fait si ça marche bien, mais si on voit que ça va déborder, parce que c'est ça, c'était produire, les gens avaient faim, il fallait produire suffisamment pour apporter de la nourriture et pas cher, puisque les gens ils sortaient de la guerre en misère, etc. Donc c'était normal, c'était bien, ça a marché, très bien marché, comme quoi la PAC est très puissante, les outils mis en place fonctionnent très vite, et elle a tellement bien marché que tout de suite on est arrivé dans la surproduction. Et on a mis d'abord très longtemps avant de s'en rendre compte. Et je sais même pas si on s'en est rendu compte aujourd'hui. Les politiques sont toujours dans le même truc. Il faut produire beaucoup. Il faut produire à bas coût. On n'a pas changé un iota. C'est absolument étonnant. J'ai rarement vu des entreprises qui resteraient toujours dans le même sillon alors que ça marche pas. Parce que ça a marché, mais maintenant ça ne marche plus. Ça fait disparaître les paysans. Ça produit de l'alimentation qui n'est pas de qualité. Ça, c'est dramatique. Ça produit des maladies. Ça détruit l'environnement. Et on ne change pas.
D'accord, donc dans la PAC là, de 2014-2020, hein, puisque c'est ça la nouvelle, la période dans laquelle on se situe, on est toujours dans ces orientations. On parle des mesures agro-environnementales, est-ce que quand même il n'y a pas une orientation qui vise à atténuer les impacts du tout industriel ou...
Je pense qu'il y a des petites choses qui ont été faites, des toutes petites choses, vraiment à la marge, peut-être pour faire taire les râleurs que nous sommes, par exemple, à la Confédération paysanne, mais il n'y a pas eu vraiment de... Par exemple, prenons le cas du plafonnement des aides, par exemple. Ils n'ont pas pu... ils ont plafonné à 300 000 euros par exploitation, c'est à mourir de rire. Excusez-moi, mais... Enfin bon, il n'y a pas eu moyen de plafonner par actif, c'est pas possible... essayer de faire des mesures environnementales. Alors, c'est vrai qu'il y en a, mais la France n'a pas profité de tout ce qui était possible. Notamment, ils ont décidé que la monoculture de maïs était quand même une culture où il y avait des rotations de culture. Il faut m'expliquer ce que ça veut dire, mais bon, la FNSEA est un lobby extrêmement puissant, c'est ça qu'il faut dire. C'est quand même la FNSEA co-gère l'agriculture. Elle est dans le bureau du ministre de l'Agriculture, là c'est pour la France, mais elle le fait aussi au niveau européen, COPACO-GECA. C'est un lobby très puissant, et il y en a qui gagnent à ça. Parce que l'ensemble des citoyens perd dans ce système, il y en a qui gagnent, et c'est eux qui l'emportent au niveau politique. Quelle pression font-ils sur les hommes politiques? Je ne veux pas le savoir, ça ne doit pas être joli pour que ça continue comme ça.
Françoise, vous partagez cet écueil?
Oui, je partage en partie, effectivement. Je modérerai un peu ces propos en disant qu'effectivement, il y a quand même eu une évolution, et je dirais grâce à des acteurs du développement agricole et rural comme le CIVAM et d'autres qui travaillent pas à pas avec les politiques, avec les citoyens, pour construire, pour essayer de construire, que ce soit des MAE, des évolutions.
MAE,
alors mesures agro-environnementales et aujourd'hui MAEC donc et climatique.
Oui.
Donc voilà, c'est tout un travail, qui est aussi un travail technique, hein, puisque une MAE, donc c'est une aide par rapport à un choix technique qui est meilleur, je dirais, pour l'environnement, une rotation en engrais vert, etc. Donc je dirais que il faut continuer à travailler, il faut y croire. Alors c'est vrai que c'est toujours une marginale, et ça c'est tout à fait triste et fatigant, et on aurait vraiment envie que ça aille plus vite. Alors nous, CIVAM, mouvement d'éducation populaire, etc., de formation, d'accompagnement des paysans, on est vraiment dans ce titillement permanent des politiques pour faire avancer dans le bon sens. Alors nous, on trouve aussi que ça avance vraiment pas vite, mais voilà, on espère que on croit que ce sont les citoyens, les dix consommateurs qui vont peut-être être plus puissants que nos politiques actuelles.
Eh ben, pour étayer un peu vos propos, on va écouter un extrait encore de Monsieur Belin sur son intérêt sur les normes et sa volonté de cadrer les choses.
Nous sommes d'abord des entrepreneurs, nous sommes des investisseurs, nous sommes des producteurs, et trop de contraintes tue la contrainte. Donc là-dessus, vraiment, j'ai envie de dire presque le mot d'ordre, en tout cas l'appel que nous lançons, presque un appel au secours: stop aux normes, stop aux contraintes, stop aux réglementations, stop aux directives, et au contraire, mettons-nous en marche avant. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent, expérimentons. Les paysans, depuis tout temps, ont fait d'abord de la recherche par eux-mêmes, parce qu'ils ont, au fond, expérimenté eux-mêmes, ils ont copié leurs voisins, c'est ce qu'on appelait la vulgarisation il y a 40 ans, mais ça peut encore devenir, ou redevenir en tout cas, au fond, une forme de développement agricole.
Alors, est-ce que on vient d'entendre Monsieur Belin, donc président de la FNSEA. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le trop de réglementation?
Non, moi.
Michel Roux, oui.
D'accord avec lui.
Oui.
Parce que il faut des réglementations et des normes, pas n'importe lesquelles effectivement, mais lui, ce qu'il ne veut pas, par exemple, on va prendre la directive nitrate.
Oui.
C'est-à-dire, la France, comme vous le savez, paye une amende depuis plusieurs années, parce que on met trop de nitrate dans les terres, donc ça va dans les eaux, etc. Donc au niveau européen, il y a une directive, voilà, qui demande à ce qu'il y ait une diminution des nitrates.
Donc on ne respecte pas la réglementation.
Et donc on ne la respecte pas. Et la FNSEA ne veut pas que ce soit respecté. Et donc ils ont essayé d'imposer. C'est vrai que les politiques, ils essaient de faire des choses. Je suis d'accord avec François. Quelquefois, il y a une volonté de faire et tout ça. Mais ensuite, ça ne se fait pas parce que la FNSEA est trop puissante. Mais c'est vrai, bon, par exemple, les réglementations, donc il y a les nitrates, il y a aussi des réglementations, on parlait tout à l'heure, François parlait de faire des rotations de culture, des choses comme ça, donc quelquefois ça se fait, et je suis d'accord avec elle pour dire que effectivement on arrive à faire des choses pas à pas, on va dire c'est le local et le global, il y a le côté syndical, moi je suis syndicaliste, donc je me bats pour que ça avance. Voilà, et on travaille aussi avec chacun pour que, par exemple, ils soient plus autonomes. Quand ils sont plus autonomes, ils sont face aux crises et ils supportent mieux les crises et ils sont plus résilients, les fermes sont plus résilientes quand on est plus autonome. Donc ça, c'est un travail au jour le jour avec chacun. Mais il n'empêche que le problème, moi, que je vois, c'est que on risque d'être, dans ce que dit Xavier Bellin, s'ils ne respectent pas les normes, et ben c'est les citoyens, c'est tout le monde. Enfin, c'est les sols, une fois qu'ils sont fichus, les eaux, une fois qu'elles sont bourrées de nitrates. Par exemple, j'ai pris l'exemple des nitrates, mais il y en a d'autres. On accepte des primes, de grosses primes, mais on est bien obligé d'avoir des réglementations en face. Par exemple, nous, on réclame la conditionnalité sociale. D'accord, des primes, à condition que vous respectiez les règles sociales. Quand vous embauchez des salariés saisonniers, par exemple, eh bien, il faut qu'ils soient payés correctement. Il faut qu'ils soient... Voilà. Or, ce n'est pas le cas. En France, on découvre sans cesse des cas de personnes qui sont dans l'agriculture, qui sont mal payées, qui sont mal logées, qui sont mal nourries, qui viennent de pays étrangers, qui sont parqués dans des endroits absolument lamentables. Et ça, c'est des réglementations sociales. Il faut les respecter.
D'accord.
Sinon, pas de primes.
Des réglementations sociales et environnementales aussi.
Ah ben oui, oui. Mais en revanche, il faudrait que les normes soient adaptées à la taille des fermes. Si vous mettez les mêmes normes pour les fromages chez Danone et chez quelqu'un qui a 10 vaches et qui fait des fromages, vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir les mêmes normes et le même atelier de transformation.
Bien sûr, Françoise Follet-Sinoir.
Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça, d'autant plus que je pense que M. Bellin est peut-être très intéressé par les normes quand ça arrange, quand ça arrange. Hein. Je pense que des normes, il y en a effectivement beaucoup. Elles sont parfois, elles sont parfois très précises et très pas faciles forcément à suivre pour justement nous les petites fermes. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est assez facile de dire on veut pas de normes quand on exige aussi des normes pour faire disparaître des petites fermes, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit. Donc effectivement, l'adaptation des normes ou alors, disons, l'accompagnement à aller vers la norme avec des délais, des facilitations, etc. C'est une chose. Après, pas de normes, c'est impensable.
Et du coup, une question qu'on se posait en préparant l'émission, c'est est-ce que globalement, il n'y a pas un dysfonctionnement du système agricole où d'un côté il y a des petits agriculteurs qui ont des difficultés qui doivent tailler sur leurs coûts et de l'autre part et du coup qu'on est obligé d'aider par des politiques comme la PAC ou toutes les aides qu'on connaît et d'autre part les gros industriels qui eux tirent leur épingle du jeu, qui ont toujours maintenu leurs marges voire qui les ont augmentées et qui devraient en fait avoir des normes pour rétribuer honnêtement de façon équitable, les producteurs. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Oui, c'est sûr. On va nous rétorquer qu'on est dans le marché, et le marché, libre concurrence, etc. Bon, voilà. C'est ce qui se passe quand il y a la crise du porc, quand des industriels ne veulent pas venir acheter du porc, par exemple, ou ne veulent pas... au niveau du lait, moi, c'est ce que je connais bien. Il y a 5 multinationales qui achètent le lait en France, en fait, hein, si on compte pas toutes les petites entreprises qui font plutôt du local et tout ça, mais ils sont 5, donc ils se partagent, ils se mettent d'accord.
Hein. D'accord, ouais, c'est un cartel du lait.
Exactement. Et en plus, le prix du lait, c'est comme le prix du porc, c'est comme le prix tout ça, il est coté sur des marchés et on parle de prix mondial, ce qui ne veut rien dire parce qu'en fait, en Europe, il y a très peu de lait qui s'échange avec l'extérieur. 90% du lait, même, ça dépend des moments, hein, quelquefois c'est plus, qui est produit en Europe, c'est peut-être encore plus en France, est mangé en Europe. Transformé en bon fromage, yaourt, machin truc. Et les 10% ou les 7%, ça dépend des moments qui sont échangés, c'est des produits laitiers à bas coût, c'est de la poudre de lait, c'est des montagnes de beurre qui permettent de stocker du lait en attendant. Et c'est des produits qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est là-dessus qu'on calcule le prix auquel on paye le lait aux paysans. C'est la même chose pour les cochons. Le marché de Plévin, ouais. Ça cote seulement 7% des cochons français.
Mais donc, ça donne un prix indicatif
voilà,
pour
un
l'ensemble.
Un prix indicatif, payez pas cher.
D'accord. Et alors avec le... Alors je voulais faire un lien avec le TAFTA, le traité... transatlantique de libre-échange. Est-ce que aujourd'hui on a une idée de comment les filières agricoles sont concernées ou vont être impactées?
Françoise, c'est un domaine ou sinon Michel?
Oui, si vous voulez.
Oui, Michel Roux, allez-y. Oui.
Donc le TAFTA, ça va être dramatique hein, pour les filières agricoles parce qu'en fait, on prétend qu'il faut que l'alimentation circule comme les voitures, comme les appareils électroménagers, etc. On a vu ce que ça donne d'ailleurs dans l'industrie, hein, la fermeture des sites industriels à la chaîne, les emplois, les gens mis à la rue, etc. Ben, ce sera pareil avec les paysans, quoique les paysans, ils disparaissent déjà. Hein. Et ce sera encore pire. Par exemple, la viande bovine, il n'y en aura plus. On voit ce que ça donne, par exemple, avec les ovins. On a l'exemple. Hein. Ça nous donne une idée de ce que ça donnera pour le reste. Et on avait des bergers, des élevages de moutons en assez grande quantité en France. Et puis, soudain, il y a eu, au début de, dans les années 90, avec le GATT, ce qu'on appelait le GATT à l'époque, c'était avant ce qui existait, l'Organisation mondiale du commerce, il y a eu l'ouverture des frontières à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie, qui venaient, et leurs produits venaient directement en Grande-Bretagne, et ensuite pouvaient revenir en France. Et donc maintenant, on produit moins de la moitié de notre viande, alors qu'on en avait, et on a vu ce que ça donnait au niveau de la diminution de l'emploi paysan, quoi. D'accord. Donc ce sera la même chose avec le bovin viande en premier, hein. Alors là, ça va être dramatique. Mais le reste va suivre, hein. Il faut pas croire. Alors, à la FNSA, ils pensent que le lait, on va s'en sortir parce qu'on va exporter. Excusez-moi, si on base toute notre filière laitière sur l'exportation, ben, on voit ce que ça donne. Dès qu'il y a un embargo, dès qu'il y a un problème, les Chinois.
Oui, on est dépendant d'aléas.
Les Chinois ne nous attendent pas pour avoir le lait, hein. Ils ont fait des fermes, paraît-il, à 40 000 vaches. Hein.
Donc, d'accord.
Les Chinois, ils n'attendent pas.
D'accord. Donc, Françoise,
vous voulez peut-être intervenir.
Oui, parce que je suis tout à fait d'accord. Le TAFTA, ça va certainement être catastrophique parce que des accords de libre-échange, il y en a déjà eu. Je voudrais juste parler des tomates. On a un accord avec le Maroc et on voit bien que c'est catastrophique. On a des tomates qui nous arrivent, qui sont complètement à un coût qui ne correspond pas du tout
au
coût de production français, mais qui en plus, on parlait des normes, voilà, les conditions de production, eh bien, non seulement on les connaît pas, mais on peut peut-être les imaginer, quoi.
D'accord.
Donc, du coup, on a vu effectivement l'intérêt des politiques qui sont en place, et on va donc passer bientôt à la deuxième pause musicale qui permettra de faire la transition sur les évolutions futures.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic ce soir. Nous venons d'écouter Gilles Scott Heron, Me and the Devil. Nous sommes donc avec Françoise Follet-Sinoir de la FNCIVAM, donc la Fédération Nationale des Centres d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural, et Michel Roux, donc de la Confédération paysanne et de la Fédération des associations pour le développement de l'emploi agricole et rural. Donc nous avons vu un peu un état des lieux, un constat rapide hein, de la situation économique des filières agricoles et des politiques qui ont contribué aussi à asseoir un peu un modèle industriel dominant dans la filière agricole. On voulait s'intéresser dans la troisième partie aux alternatives et notamment aux alternatives que vous représentez. Donc peut-être Françoise Follet-Sinoir, vous pouvez nous parler un peu des actions que vous menez au sein de la Fédération nationale des CIVAM.
En nous présentant un peu ce que c'est cette
Oui, donc les CIVAM, donc c'est un vieux mouvement puisqu'il est né dans les années 50, un mouvement d'éducation populaire Donc qui accompagnent les agriculteurs aux évolutions, à leurs évolutions et dans leur contexte. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons vraiment construit des façons d'accompagner des comment dire nous avons façonné de la solidarité à la fois entre nos animateurs, les paysans. Nous croyons beaucoup au collectif et nous essayons de travailler aussi avec des nombreux partenaires. Alors c'est vrai que bien sûr la Confédération paysanne, nous on se connaît bien puisque nous travaillons au sein des collectifs Impact. Donc Impact, c'est Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. Donc déjà quand on dit ça, on comprend.
On a ce lien territorial fort.
Et citoyenne dans le sens que l'agriculture, les agriculteurs, les paysans sont au sein de leur territoire parmi d'autres qui ne sont pas paysans et ils ont besoin c'est un besoin réciproque. On a besoin des paysans, les gens ont besoin des paysans pour manger et puis les paysans ont besoin d'être entourés de gens qui avec qui ils peuvent travailler, être compris, des intermédiaires, des acheteurs, etc. Et c'est dans cette coopération les uns avec les autres que les CIVAM s'inscrivent dans des projets qui favorisent la solidarité et la coopération.
Donc c'est par le lien, la création de liens entre les différents intervenants que vous fédérez pour essayer d'améliorer la qualité sur le produit final et de la faciliter aux agriculteurs de travailler dans de meilleures conditions.
Tout à fait. Alors donc nous accompagnons donc les agriculteurs à faire évoluer leur système vers des productions économes, donc économes en intrants, économes et autonomes. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'on appelle les systèmes de production économes et autonomes. Donc nous accompagnons beaucoup aussi l'agriculture biologique. Et la diversification des fermes, la diversification à la fois dans les productions et dans les activités.
D'accord. Ouais.
L'accueil, en particulier l'accueil en milieu rural sur les fermes.
Michel Roux, vous situez un peu, j'imagine, dans la même mouvance.
Oui, donc comme l'a dit Françoise, donc c'est vrai que nous travaillons ensemble souvent. Nous rencontrons à la fois localement, ça dépend des endroits, il n'y a pas des ADR partout.
Alors comment ça fonctionne une ADR pour...
Une ADR c'est une association et qui accompagne les paysans. Alors ça peut être à la transmission de leur ferme, ça peut être à l'installation quand ils arrivent, ça peut être peut-être moins souvent que les CIVAM, ça peut être aussi au niveau technique pour travailler l'autonomie et tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, c'est de pas se marcher sur les pieds quand, en général, c'est ce qu'on recommande, nous en tout cas, à la FADEA, c'est de... S'il y a des CIVAM quelque part qui font quelque chose, on va pas arriver avec un ADR qui fait la même chose, évidemment.
Bien sûr, ouais.
Voilà. Donc, parce que souvent, on défend l'agriculture paysanne. Les CIVAM, c'est pas tout à fait le même nom, mais ça se ressemble beaucoup. Nous, on prétend que l'agriculture paysanne, il peut y avoir de l'agriculture biologique, mais si elle n'est pas paysanne, pour nous, c'est moins bien.
Oui, parce qu'il y a de l'agriculture biologique industrielle aussi.
Oui, on avait 80 hectares de carottes biologiques dans les Landes, par exemple, chez un même producteur, par exemple. C'est pas, voilà. Avec des travailleurs, des travailleuses surtout, qui viennent de pays étrangers et qui désherbent manuellement.
Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas, 80 hectares, vous, par exemple, Françoise, chez vous, vous avez combien d'hectares?
Alors, nous, on a 27 hectares, dont on a eu jusqu'à 6 hectares de maraîchage. Et dans la transmission, on a encore séparé notre ferme pour deux jeunes, donc notre fille et un jeune paysan boulanger qui a repris la partie céréales. Donc, vous voyez, on n'est pas allé à l'agrandissement. On a coupé, notre ferme s'est coupée en deux pour faire vivre deux jeunes paysans.
Oui, donc 6 hectares de maraîchage, c'est déjà important, quoi. Avec 6 hectares, on a de quoi produire...
Oui, tout à fait. D'ailleurs, donc maintenant, ma fille ne travaille pas sur les 6 hectares. Elle fait un petit peu de céréales pour des éleveurs voisins.
Et alors, les circuits courts, justement, enfin, c'est toute cette agriculture, en fait, territoriale, hein, c'est de rapprocher le consommateur et le producteur. Aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans l'océan ou c'est, on arrive à des, j'ai pas trop envie de parler comme ça, mais des volumes ou des parts de marché importantes?
Moi, je pense que c'est un peu plus qu'une goutte d'eau, mais c'est pas quand même énorme. Et à mon avis, c'est pas ça qui va sauver, entre guillemets, l'agriculture paysanne, par exemple, ou l'agriculture plus territoriale. Ça suffira pas de faire tout le monde ne va pas aller acheter à la ferme ou au marché ou dans une AMAP. Quand on arrive à 20% déjà de tout ça, c'est déjà énorme. Mais en revanche, moi, je pense que là, c'est en train de commencer à se faire. Ce qu'on appelle la relocalisation des filières longues, c'est-à-dire ça, c'est les élus territoriaux qui peuvent faire ça, qui peuvent aider, ou les régions, puisque les régions vont être autorités de gestion pour donner des aides pour le développement. Par exemple, donner de l'argent pour mettre en place des outils, par exemple, abattoir de proximité, atelier de découpe, par exemple, ou bien atelier de transformation à plusieurs, ou alors une petite entreprise qui ramasse le lait de 10, 15, 20 paysans et qui transforme. Enfin, voilà, ça, pour moi, c'est la relocalisation des filières longues. Le paysan, lui, il ne vend pas directement parce que tout le monde n'est pas commerçant, à la fois producteur, transformateur, commerçant, c'est des métiers différents. Et tout le monde ne pourra pas le faire. On le voit déjà, on arrive vite au bout où il y a, par exemple, admettons, dans un endroit, plusieurs maraîchers qui s'installent, c'est très bien, on est ravis, mais si tout le monde vend sur le même marché, ça ne fonctionne pas.
D'accord. Françoise, pour les Sinoirs.
Oui, alors nous travaillons sur la notion de SAT. S-A-A-T, ça veut dire système agricole et alimentaire territorialisé. Donc c'est la façon dont s'organise la production et la distribution de l'alimentation sur un territoire. Et donc ça prend en compte tous les modes d'organisation, qu'ils soient effectivement... effectivement, on essaie de relocaliser, donc de faire des circuits plutôt courts, mais en même temps, voilà, on prend en compte les filières longues qui existent et qui doivent s'articuler, enfin prendre en compte une politique alimentaire, agricole et alimentaire sur le territoire, c'est-à-dire vraiment travailler sur les articulations, sur les organisations collectives. Et sur des structures qui se complètent et se coordonnent.
Donc nous arrivons maintenant à la fin de cette émission. Donc on comprend que pour aider ces circuits courts, ben les meilleures actions, c'est de continuer à acheter bio et de qualité, d'essayer d'aller voir plus proche de chez soi pour prendre ces bons produits et de favoriser ces démarches et de s'intéresser à vos deux mouvements sur vos sites internet respectifs. Donc bien sûr, l'émission touche à sa fin. On a pris plaisir à vous écouter toutes les deux sur ce sujet passionnant. À tous nos auditeurs, vous pourrez réécouter tout cela, comme on vous l'a dit, sur le podcast de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org. Le prochain thème de notre émission animée, encore une fois par la Fondation Copernic, ce sera le 27 novembre. Il portera sur les réformes territoriales, ce vaste débat intéressant que porteront deux de nos collègues. Donc, remerciements encore une fois à Françoise Follet-Sinoir qui nous a donné son expertise sur le maraîchage et à Michel Roux, secrétaire national de la Conf, sur cet aspect
représentant syndical.
C'est ça.
Donc, merci en tout cas à vous deux.
Merci à vous.
Et nous écoutons PJ Harvey Water.